Écoutez. À midi.
Mesdames et messieurs, attention au décollage. La Baroudeur vous emmène à la rencontre de Nantais qui ont la bougeotte. Musique exotique, récits de voyage, culture du monde. Embarquez pour une heure de dépaysement sur Prune 92 FM.
Bienvenue à tous, chers auditeurs. Aujourd'hui est une émission exceptionnelle puisque l'équipe de La Baroudeur est au grand complet. Un tel rassemblement de nos trois membres n'était pas arrivé depuis notre première émission. Et nous retrouvons ainsi notre merveilleux technicien Tom, qui avait le mois dernier été vaincu par sa troisième dose. Comment ça va, Tom ?
Beaucoup mieux. Mais la troisième dose était violente, ouais, je veux bien l'admettre.
Mais aujourd'hui, c'est notre douce Lara, cette animatrice incroyable qui n'a jamais manqué une seule de nos émissions, elle, qui va gérer la technique. Salut Lara, pas trop stressée d'être aux commandes ?
Ça va, on s'en sort pour le moment, ça va plutôt bien.
Et le mois dernier, nous avions voyagé en Amérique centrale et cette fois-ci, nous nous envolons pour le Sud. Notre invité du jour va en effet nous conduire en Amérique latine. Gabi, tu es partie en Erasmus au Pérou et tu vas nous raconter tout ça. Merci d'être avec nous déjà sur Prune, tu te sens comment ?
Merci, c'est la première fois que je passe à la radio, donc un peu stressée, mais ça va bien se passer.
Ouais, ça va bien se passer.
Il n'y a aucun souci, tu verras, ce sera super.
Alors, en janvier, nous avions aussi parlé d'un échange universitaire en Amérique hispanique, mais cette fois-ci, le voyage est tout autre, parce que Marine et moi, nous avions relaté les différences culturelles dans le milieu scolaire. Mais toi, si j'ai bien compris, t'es pas vraiment partie là-bas dans l'optique d'étudier durement, on va dire.
Non, pas tout à fait. Non, c'est vrai que... quand j'ai vu qu'on avait la possibilité, moi, j'ai plutôt saisi l'opportunité de faire un voyage. Et puis, une fois là-bas, j'y reviendrai, mais je me suis arrangé pour avoir du temps.
Super. Déjà, petite question qu'on pose généralement dans la Baroudeur. Est-ce que c'était ton premier voyage en solo, à partir seul, sans amis ou parents, quoi ?
Alors, en vrai, solo, c'était mon deuxième. Mais il faut savoir que le premier voyage, du coup, était lié au premier. Parce que pour avoir le droit de partir là-bas, il fallait que je valide un niveau d'espagnol. Et je n'avais pas fait d'espagnol depuis bien, bien longtemps. Donc je m'y suis remis et pour m'y remettre, je me suis dit que j'allais partir en Espagne. Donc aux vacances de la Toussaint, je suis parti 10 jours tout seul. J'ai aussi loupé quelques cours. C'était pour apprendre l'espagnol aussi.
C'est pour une bonne cause, je pense.
C'est ça. C'était en quelle année, dans quel type d'école aussi ? Enfin, si tu peux un peu nous recontextualiser aussi, en quelle année c'était ? En quelle année toi tu étais ? Quelle école ?
Alors, j'étais en troisième année de licence de psycho. Donc, c'était le premier semestre. C'était en 2018. Donc, de fin août à fin décembre. Et la question d'avant, je ne m'en souviens plus.
Et c'était du coup, dans ton école, elle était privée ou elle était publique ?
Alors, la fac que j'avais... c'est la fac d'Angers, c'était l'Université catholique de l'Ouest, donc c'est une fac privée. Et notre échange, alors ceci dit, donc à Angers, c'est une fac privée, mais le côté catholique, on ne le voit pas du tout. Mmh. En tout cas, on ne l'entend pas en l'enseignement, on le voit un petit peu dans la fac. Par contre, la fac où je suis arrivé, qui était aussi catholique, ça se voyait plus. Ça s'entendait dans les cours, ça se voyait dans la salle de classe. Il y avait des messes à l'intérieur de l'école, c'était beaucoup plus présent.
Ouais, ça a été un peu un choc, la religion qui est là-bas quand même beaucoup plus présente au Pérou qu'en France.
Oui et non. On va dire que je m'y attendais, mais qu'il y a certains points traditionnels où c'est très gênant, notamment sur l'acceptation de l'homosexualité qui n'est pas évidente pour tous. C'est que dans notre groupe, il y en a qui étaient en médecine. Et je vais déjà mettre une petite anecdote. Il y en a qui refusaient les examens et le toucher rectal parce qu'ils avaient peur d'attraper l'homosexualité. Voilà.
Ah oui, d'accord.
Donc là, effectivement, oui. C'était un peu choquant. Mais sinon, d'autres fois, ça permettait aussi d'avoir des conversations super intéressantes sur ce qu'est la religion. Puis les gens qui sont très croyants, au final, ça leur apporte beaucoup. Moi, c'est quelque chose... je suis éloigné de ça, mais quand même, je trouve qu'il y a des points intéressants, surtout sur la psychologie. Et c'est ce que j'étudiais, donc voilà.
Alors moi, je me demandais déjà, pourquoi est-ce que tu t'es dit tu es en France, tu es étudiant, et pourquoi est-ce que tu as eu envie de partir, en fait ? Qu'est-ce qui t'a poussé à te dire que tu allais finir un semestre ou autre, ou juste faire un voyage, surtout au Pérou, c'est quand même loin. De ce que j'ai compris, tu ne parlais même pas encore très bien espagnol, enfin, si je peux me permettre.
Oui, c'est clair. Quand j'ai repris, je n'arrivais pas à aligner deux phrases.
Ouais.
Mais j'avais envie de sortir de ma zone de confort. J'avais envie de découvrir et dans l'improvisation aussi beaucoup parce que moi, je ne suis pas quelqu'un de très organisé. Et j'avais besoin vraiment de vivre au jour le jour, de trouver des trucs qui sont un peu exceptionnels. Puis en même temps, il y avait aussi un contexte familial que j'avais peut-être un peu envie de fuir aussi.
Ouais, d'accord.
Voilà, et je voulais me retrouver loin, me retrouver avec moi-même. Puis c'était aussi un petit peu une petite épreuve.
Est-ce que du coup, tu avais un peu des appréhensions en partant ou pas? Ou tu avais juste vraiment hâte? Déjà, on voit que tu étais motivé parce que partir en Espagne pour pouvoir parler espagnol suffisamment pour aller au Pérou, faut être motivé, ouais.
C'est vrai.
Moi, j'ai une petite question.
Oui.
Pourquoi le Pérou? Désolée, hein, je te coupe, mais juste pourquoi le Pérou?
Alors, le début de la réponse va être assez épique, hein. Mais de base, si je me suis intéressé au pays, c'est que j'aime bien comment ça se prononce Pérou.
Ok, c'est vraiment ça.
On est sur ce niveau d'intérêt, voilà.
Bonne anecdote.
Donc, c'est ce qui m'a interpellé. Et puis ensuite, à chaque fois que j'en entendais parler, je trouvais ça cool. À chaque fois, vraiment, je me suis dit, ça a l'air vraiment intéressant. En plus, il y a un côté où ils ont gardé... Alors, on a parlé du côté catholique tout à l'heure, mais ils ont aussi gardé des traditions spirituelles qui sont très différentes, et notamment avec les chamans, avec le chamanisme. Et ça m'intriguait beaucoup.
Donc au final, t'as entendu quelque chose, quelques petites choses, et tout cet ensemble d'interrogations, ça t'a donné envie d'aller explorer de tes propres yeux, quoi.
Voilà, puis en plus, je savais qu'il y avait plein de paysages différents. C'est séparé entre désert, montagne et jungle. La jungle et le désert, je n'avais jamais vu.
Ouais.
Et ça me donnait super envie, quoi. Surtout la jungle.
Je comprends, c'est une géographie qu'on n'a pas en France. C'est chouette. Moi aussi, ça me donne envie de partir quand j'entends ça.
Ouais. On y reviendra un peu plus tard, toute cette partie voyage. Mais en tout cas, quand tu es arrivé, donc concrètement au Pérou, comment est-ce que tu t'es intégré? Il y avait d'autres étrangers. Comment est-ce que ça s'est passé, tout ça?
Alors, on était un petit groupe où on était deux Français. Donc, dans la fac, il y en avait un autre. Il y avait 6 Espagnols, dont 5 qui sont basques. Alors, je précise parce qu'ils étaient très, très fiers d'être basques et ils voudraient pas que je dise qu'ils soient juste espagnols. Et par contre, en fait, je ne les voyais pas tant que ça. Par exemple, en cours, moi, j'étais dans deux classes différentes et je n'étais jamais avec eux. On se voyait surtout le week-end pour sortir. Sauf que petit à petit, moi, je voulais être seul et j'ai commencé à faire mes excursions tout seul. Donc, on se retrouvait surtout les soirs de semaine.
D'accord.
Comment s'était réparti ton emploi du temps? Parce que tu nous as dit au tout début de l'émission que tu avais un peu... c'était un peu des vacances, donc comment ça se concrètement
Parce qu'en fait, j'étais censé avoir des cours toute la semaine, jusqu'au vendredi après-midi. Sauf que j'étais très ami avec le coordinateur de la faculté. Et bon, j'ai des cours qui ont été effacés de mon emploi du temps. Et après, j'étais le lundi, mardi, mercredi en cours, donc à la fac, et du jeudi au dimanche en week-end. Donc pour les excursions, c'était vraiment intéressant. Du coup, j'essayais d'en faire, je pouvais en faire quasiment tout le week-end. Donc voilà, c'était top. Puis le coût de la vie est vraiment pas cher, donc pour les transports, ça me permettait de le faire, quoi.
Ah, c'est super, c'est-à-dire que tu as réussi à te libérer en gros plus de la moitié de la semaine pour juste voyager et profiter de... Je trouve que tu as bien profité de l'opportunité du semestre en Erasmus.
Ouais. Il a bien compris à quoi ça servait, quoi.
Ouais, mais je pense que tu t'es bien débrouillé en vrai, très sérieusement. Ça fait partie de l'Erasmus, quoi.
Pourquoi est-ce que tu as eu envie d'arrêter un peu de traîner, on va dire, avec les autres étrangers? C'est parce que c'était plus potentiellement à cause de leur personnalité ou du fait que ça te ramenait à l'Occident et que tu voulais vraiment profiter du dépaysement?
Alors honnêtement, les deux réponses, hein, les deux sont vraies. Y a un côté où ils étaient trop organisés, dans le sens où ils étaient arrivés et... Il y a une des personnes qui avait tout organisé, qui avait déjà prévu 12 week-ends à l'avance ce qu'ils allaient faire. Et en fait, ils venaient pour voir le Pérou, donc le pays, toutes les traces archéologiques, les sites qui sont splendides, hein, faut le dire.
Machu Picchu, tout ça, enfin tout ce qu'on connaît.
L'île de Nazca, tout ce qu'il y a au sud du Pérou, au nord aussi, il y a de très belles choses, parce que j'étais surtout au nord du Pérou, proche de l'équateur. Et par contre, ils n'étaient pas venus pour voir les Péruviens, alors que moi, c'était plus ça. Et j'avais plutôt envie de m'isoler pour être vraiment dans une rencontre où, en fait, j'avais une petite tradition. Hein, moi, quand j'allais dans une nouvelle ville, j'allais sur la place centrale. Je trouvais des personnes qui avaient l'air d'avoir plus de 40-50 ans. Je leur demandais ce que je peux faire dans la ville, où je peux manger, où je peux aller au marché. Et à partir du marché, là, je demandais aux gens qu'est-ce que je peux faire ici. Et ça m'a permis de faire plein de belles rencontres. Beaucoup d'improvisation, mais j'avais toujours ma belle étoile et beaucoup de bienveillance de la part des gens. Donc, c'était génial. J'ai décidé de continuer tout le temps. Tous les week-ends, je faisais comme ça.
Et c'était le cas pour tout le monde, cette belle étoile ? Parce qu'en fait, vous étiez plusieurs étrangers, donc j'imagine que vous êtes plusieurs à être partis en expédition. Est-ce que c'était juste de la chance ou...
C'était pas le cas pour tout le monde, non. Non, parce qu'il y a un contexte qui n'était pas très sécure. Et mon ami français, lui, il s'est fait détrousser. Ah. Et c'est pas le seul, ça arrivait souvent. C'est une ville où... on ne va pas se le cacher, il y a beaucoup de pauvreté aussi. Et
C'était quelle ville d'ailleurs ? Parce que c'est vrai qu'on ne t'a pas demandé hein, quelle ville tu étais installée.
C'était la ville de Chiclayo. C'est une ville au nord du Pérou qui est appelée la ville de l'amitié. Au Pérou, c'est son petit surnom. Et il y a 600 000 habitants par là. Mais ce n'est pas écrasant du tout, c'est assez réparti. Mais donc non, effectivement, les autres n'ont pas eu toujours ma chance.
D'accord, ok.
Du coup, je ne m'en rends pas compte, le Pérou, c'est quand même vaste. Enfin,
c'est vraiment grand comme pays, oui.
Et sur tes week-ends de 4 jours, tu avais le temps de faire un aller-retour et de visiter sur place un endroit qui t'intriguait et tout ça. Enfin, ça te convenait comme rythme ?
Ah bah oui, à fond. À fond, j'avais toujours le temps de bouger. Alors, pas aussi loin que je voulais. J'ai pas vu les sites touristiques qu'on voit au Pérou habituellement, en fait. Parce que j'étais à 13-14 heures de la capitale et de toutes les villes du sud. Donc, ce qu'on voit habituellement au Pérou, moi, j'en ai rien vu. Je n'ai pas vu le Machu Picchu, par exemple, ce qui est le plus connu. Non, j'ai surtout vu... je m'intéressais beaucoup dans la cordillère des Andes, des petits villages de montagne, un petit peu plus loin dans la jungle. Puis on est remonté aussi deux fois en Équateur. Voilà, il fallait de toute façon, parce que le visa expirait, il fallait faire sortir du pays pour re-rentrer, pour regagner un visa aussi.
Et comment est-ce que tu étais accueilli en tant que Français ? Comment est-ce que tu étais perçu par les Péruviens ? Parce que déjà, d'une part, il y a forcément le choc un peu culturel, mais d'autant plus potentiellement générationnel, surtout si tu t'adressais à des personnes qui avaient la cinquantaine, alors que toi, tu étais jeune dans la vingtaine, quoi.
Super bien. J'ai jamais ressenti de... De soucis vis-à-vis d'être européen, en fait. J'ai toujours été assez bien accueilli. Je me suis souvent perdu. On m'a toujours aidé à me retrouver. On m'a jamais fait de faux plans, en fait, là-bas. Donc, là-dessus, génial. Et pourtant, ils auraient pu, parce que j'arrive sûr de mes convictions. J'arrive avec plein d'idées. Alors déjà, je ne suis pas catholique, alors qu'ils l'étaient tous, et des fois très fortement ancrés. J'arrive, je suis athée. Et pourtant... Enfin, j'ai jamais été rejeté, non, c'était vraiment cool comme accueil. Puis, il y avait une envie de faire découvrir, et il y a un côté où, fier de leur pays, quoi, beaucoup, et voulaient me faire découvrir des choses. Donc, en fait, ça allait dans le même sens. J'ai pas grand-chose à reprocher là-bas, franchement, de la part des Péruviens.
Tout s'est bien passé, et ça, c'est génial, en vrai, quand c'est comme ça.
Est-ce qu'ils t'accueillaient pour dormir chez eux quand tu partais ou alors tu voulais pas abuser de leur gentillesse et tu prenais des hôtels ou t'en profitais pour découvrir vraiment concrètement les maisons péruviennes et toute la culture familiale ?
Alors non, parce que je rebougeais souvent. Donc non, j'ai dit que j'arrivais sur une place quand je venais dans une ville. Mais je me prenais quand même la première sécurité de poser mes affaires parce que je venais quand même avec mon sac. Et la première chose que je faisais, c'était de trouver un hôtel, déposer mes affaires, puis bouger. Donc non, il n'y a pas eu l'occasion, mais j'ai pas non plus tendu vers ça. Et ça aurait pu arriver. Hein. Ça aurait pu arriver deux, trois fois que je dorme chez les gens. C'est pour le coup peut-être plutôt moi qui ai été moins, pas ultra aventureux là-dessus. Voilà.
Bon, moi, je peux comprendre qu'on recherche un peu un minimum de aussi des, enfin d'espace vital et de sécurité quand même. Enfin, c'est pas non plus dans quoi tu te lances à chaque fois, quoi. Et alors moi, ce qui m'intrigue aussi, c'est les transports au Pérou, parce que si tu bouges tous les week-ends, je suppose que t'as dû en voir, t'as dû en voir des belles, quoi, dans les transports.
Ah ouais. c'est vrai. Bah, c'est, en vrai, c'est un sujet super intéressant, les transports, que ce soit les petits transports de la ville, déjà, où c'est très différent. Et les transports longue distance, parce que effectivement, pour aller dans la jungle, faut traverser la montagne, la cordillère des Andes. Et je me souviens d'un trajet, notamment, de 24 heures de car. J'ai cru mourir à peu près 1722 fois. Où il y avait un car de 2 mètres de large sur une route de 50 cm et il fallait croiser des cars en face. Enfin, c'était horrible. J'ai cru mourir tout le temps. Et puis en plus, le car nous a abandonnés à un moment.
Hein,
ça, c'était un grand moment. Ça.
Comment c'est possible que le car vous abandonne? Il vous a demandé de sortir, il est parti sans vous?
Ouais, c'est un peu ça. Bah, pas aussi direct que ça, mais... moi, je rigole, hein, parce que j'avais ma belle étoile, j'avais toujours confiance et ça s'est toujours bien passé. On s'est retrouvés bloqués. La route était bloquée un moment. Ils nous ont dit que le car s'arrêtait pour 3 heures, en fait. Et on était dans un petit village. Alors, on devait être à, je sais pas, 3-4 000 mètres d'altitude, quand même. Ouais. Et on se retrouve dans un petit village où il doit y avoir quoi, 500 habitants. Et la route est bloquée. Donc, on nous demande de descendre du car. On nous dit que qu'on en a pour 3 heures. Bon, là, je demande s'il est sûr. Ils me font oui, c'est sûr. Sûr et certain. Bon, on se dit, je me dis que tant qu'à faire, autant visiter le village. Et là, dans le car, il y a un Canadien qui vient me parler. Bon, on se dit, bon, on visite le village ensemble. Voilà, ça se passe très... C'est cool. On tourne autour, c'est là que je peux voir une araignée turquoise. J'étais très heureux. Alors, ça paraît bête, mais les animaux là-bas, du coup, c'est aussi super intéressant à voir, quoi, parce que c'est assez émerveillant d'en voir de toutes les couleurs. On est quand même sous les tropiques, c'est quand même idéal pour ça. On joue avec des enfants au volley, au foot, c'est marrant, on leur montre des photos, on communique bien. Puis au bout de 45 minutes, une heure, on revient au car, puis il n'y a plus de car, quoi.
Ah oui, d'accord.
Ah ouais, donc c'était vraiment pas du tout les 3 heures annoncées à la base.
Ah non.
Donc du coup, ouais, bon, voilà.
Il vous attendait où le car? En fait, il s'était mis un peu plus loin, il vous attendait.
C'était pas une histoire d'incompréhension? C'est-à-dire que toi, tu n'as pas compris que, en fait, c'était pas 3 heures et que c'était que 1 heure, je ne sais pas.
Sois plus gentil avec nos invités, Lara.
Ah, c'est une question.
Je me souviens d'avoir répété quand même plusieurs fois. Alors, il y avait peut-être eu une incompréhension avant, par contre, sur le fait que la route était bloquée. Mais du coup, non. Puis du coup, ils n'ont pas cherché vraiment à nous chercher non plus. Alors après, moi, je le prends très bien. Je rigole beaucoup sur le moment. Le Canadien, beaucoup moins. C'est un peu marrant, ça.
Vous étiez nombreux dans le car?
On était une douzaine.
Oui, quand même. Ça se remarque, deux personnes.
Ouais. Oui. Puis il essaye d'appeler, mais il n'y a pas de réseau. Bon, moi, j'avais laissé toutes mes affaires. J'avais le passeport, portefeuille, tout dans le car.
Oh là là.
Et il me restait une bouteille d'eau sur moi. Enfin, c'est bien, c'est l'essentiel. Et puis, j'avais confiance dans le fait qu'on se fasse loger par les habitants et qu'on prendrait le car du lendemain, en fait. Donc,
vraiment très détente.
Je
ne paniquais
pas du tout. Ouais. Ah oui. Bon, après, il se trouve qu'on descend pour voir le village en dessous. Et puis, on voit passer devant la pharmacie le conducteur du car.
Ah oui, d'accord.
Dans la pharmacie, ok.
Et on le voit, on le fait, hey, salut. Et puis, là, il nous amène au car.
Ah, d'accord.
Mais j'ai mis très longtemps à comprendre que, hypothétiquement, peut-être qu'on voulait juste nous prendre nos affaires au final. Mais
ah, ouais,
moi, je ne l'avais pas pensé comme ça. Mais après réflexion, il y a quand même...
Il y a de fortes chances.
C'est quand même, oui, assez probable.
Ok. Sur cette belle anecdote, la tradition, Gabi, veut que tu nous proposes une musique qui est en lien avec le Pérou. Est-ce que tu pourrais nous proposer une musique?
Ouais, c'est une des musiques que j'écoute encore, que je kiffe bien, on m'a fait écouter, c'est Entre Presos y Poetas de La Raíz. Faut croire que j'ai perdu en espagnol. Hein.
C'est déjà pas mal, je peux pas faire mieux.
Il n'y en a pas pour l'accent, il n'y a pas de souci. Très bien, et ben on va s'écouter ça tout de suite. Et c'est parti.
Somos mil manos haciendo un túnel desde las minas hasta las nubes. Somos cizallas contra el candado, final de un cuento nunca acabado. Somos la fuerza de la estampida, somos el mundo patas arriba. Somos hijos de unos pocos locos que dibujaron la salida. Caballo en Troya y en sus castillos, cientos de gritos contra el pestillo. Somos el preso, libre entre rejas, pasa montañas, rompe cabezas. Somos el llanto y la carcajada, los empujones a la alambrada. Somos los que fueron tanto siendo nada. Y en ese pozo de ley y de orden, de sucias sombras, de servidumbre, pasa que ustedes nos odian, pasa que ustedes nos odian porque somos los hijos de los presos, de los poetas y los presos, la voz que grita entre los huesos, de las cunetas para despertar al universo. Somos el odio contra el garrote, la disidencia que sale a flote, la noche al raso del fugitivo. Somos el puño con el latido, la primavera más valenciana. Somos la escuela multiplicada, somos los que fueron tanto siendo nada. Y en ese pozo de ley y de orden, de sucias sombras, de servidumbre, pasa que ustedes nos odian, pasa que ustedes nos odian porque somos los hijos de los versos, de los poetas y los presos, la voz que grita entre los huesos, de las cunetas para despertar al universo.
Baroudeur, une heure de voyage et de voyageurs. La Baroudeur, une heure de voyage et de voyageurs.
Merci Lara pour toutes ces petites musiques.
Je me demande si la Baroudeur, c'est pas une heure de voyage et de voyageurs.
Oui, bonne question Tom.
Ça s'est enchaîné un peu trop vite. Écoutez, vous m'excuserez, c'est la première fois que je suis à la régie.
Non, c'est très bien, c'est très bien.
Merci Gabi, du coup, pour cette musique. Est-ce que tu pourrais nous dire pourquoi ce choix de musique ?
Bah alors déjà, c'est clair, elle donne le smile. Enfin,
je pense que vous l'entendez. Oui.
Là, vous le voyez pas, mais il y a du soleil dans le studio.
C'est clair. Vraiment pas mal. Non, mais elle donne envie de danser. Elle est assez cool. Et puis sinon, c'est aussi parce que c'est un de mes amis là-bas, Mélo, qui ils en avaient fait avec son groupe. Il y avait un concert à la fac. Et eux, c'est la musique qu'ils avaient choisie et je connaissais pas du tout. Et bah du coup, grand smile. Et puis en plus, bah eux, ils savaient un peu jouer de la Raïs, le groupe. Donc bah voilà quoi.
Excellent choix.
Trop chouette. Merci.
J'avais une petite question. Tu nous disais du coup juste tout à l'heure là quand tu nous racontais ton voyage que t'étais avec, enfin que t'avais du coup rencontré un Canadien. Est-ce que ça t'est arrivé comme ça dans ce voyage de parfois tomber sur des Européens? Et est-ce que c'était quelque chose qui parfois te faisait un peu du bien ou alors au contraire qui t'a à chaque fois conforté dans ton choix de rester un peu plus en solo?
Bah effectivement, ça m'a plutôt envie de donner envie de rester en solo. Parce que moi, mon style de voyage, c'était vraiment d'aller près des gens. Je venais pas voir le pays, je venais voir les habitants. Et du coup, effectivement, on a vite fait de rester dans sa zone de confort. On a re-rencontré d'autres Français à un moment, un petit groupe de trois, qui venaient d'Angers d'ailleurs, de la même ville que moi, que j'ai même revu par hasard. Enfin, assez incroyable, bref. Mais... bah voilà quoi, c'était, ils faisaient beaucoup la fête et ça restait un peu entre eux au même endroit, c'est pas ce que j'avais envie. Ce que j'ai envie, c'était vraiment de me laisser guider et toujours découvrir des choses et toujours être dans le moment présent sans m'organiser et sans confort.
Ouais, voilà. C'était une dynamique de laisser que les choses viennent à toi et que tu puisses en profiter telles qu'elles viennent. C'est un peu de ça en fait. Mais c'est vrai que l'organisation... je trouve ça assez courageux de faire cette démarche à des milliers de kilomètres de ton pays natal, de te dire bon bah, je vais y aller sans trop réfléchir à ce que je vais faire, du moins très précisément sur un agenda. Je trouve ça assez courageux.
Ouais. Ça a été difficile parfois de se retrouver justement hyper loin, de te dire waouh, je suis vraiment super loin et là je suis seule. Ok, c'est ce que je veux, et pour autant je me sens pas super bien.
Non, ça l'a pas trop été. Puis faut dire que je parlais beaucoup à mes amis quand même. Enfin, je leur parlais, je leur envoyais des messages, je leur racontais un peu ma life. Ça me suffisait. Franchement, là-dessus, non. Non, vraiment, j'étais bien à être seul. Et puis c'est encore un truc que j'aime bien faire, trouver des coins très calmes et y être seul. Hein. D'ailleurs, bon, c'est anecdotique aussi, mais même à un moment, j'envisage pourquoi pas de faire des... petite session ermite d'une semaine, deux semaines, vraiment seul avec soi-même. On s'y retrouve, puis j'aime bien, ça permet de s'enlever l'influence sociale qui est autour de nous. Et ça peut faire un peu cucu comme phrase, mais vraiment, de se retrouver avec soi-même, de comprendre pourquoi on a fait tel ou tel choix et de se réorienter.
Mais moi, je trouve ça... Je vais te poser une question, alors on va tâter le terrain. Mais... Tu trouves ça intéressant comme expérience sociale? Est-ce que, par exemple, le confinement, pour toi, qui était quand même un moment où on était quand même chacun plutôt avec nous à se retrouver, ça avait la même saveur que le moment où tu t'es retrouvé tout seul au Pérou, on va dire?
Je rajouterais juste une petite question. Du coup, tu étais où pendant ton confinement? Parce que, histoire de faire un lien quand même.
Oui, ça se trouve, tu n'étais pas en France et tu étais à l'étranger. Tu n'étais peut-être pas seule non plus, d'ailleurs.
J'étais en France dans la famille de ma copine.
D'accord, ok. Donc là, c'était plus un moment social, finalement. Enfin, social, on s'entend bien. Tous nos auditeurs comprennent que le confinement, ce n'était pas une grande expérience sociale, mais déjà, dans la famille, à deux, avec sa copine, c'est un peu plus.
Oui, c'est clair. Non, ce n'était pas un moment où je n'avais pas trop de moments seuls. Non, du coup, pour le coup, rien à voir, mais c'est à cause du contexte. Donc non, même si... il y a quand même des moments dans les autres moments où on sortait moins avec les couvre-feux, deuxième confinement, tout ça, où là, ça m'a permis un peu de me retrouver et des fois de commencer à écrire des trucs. Ce que j'aurais pas fait si on l'avait pas eu.
D'accord, ok. Et est-ce que tu as retrouvé un peu la même expérience du coup au Pérou? Enfin, ça se ressemble un peu dans l'expérience, en gros, c'est ça que je me demande.
Moi, c'est pas tant que ça, non, parce qu'il y a une petite excitation du voyage quand même. Le fait d'être loin, il y a un petit truc où tu te dis ça peut partir dans toutes les cacahuètes à tous les moments. Et c'est quand même beaucoup plus excitant en étant loin de chez soi. Franchement.
C'est quand même deux choses vachement différentes. Mais enfin, t'es dans un autre pays, t'as un dépaysagement total pendant le confinement ou en tout cas à la période de couvre-feu. Enfin, tu restes quand même chez toi tout le temps. Ouais, donc c'est totalement différent.
Il y a la liberté là. Du coup, ça m'amène une autre petite question. Est-ce que t'as eu ce moment de cette partie en cacahuète et t'as eu une surprise, une explosion, quelque chose qui est survenu, on va dire, et qui t'a agréablement surpris ou peut-être déplu au contraire, mais qui avait en fait ce goût de l'aventure.
Là, je suis en train de penser à un autre moment aussi où je me suis retrouvé tout seul dans une ville où je rencontre des Péruviens. Puis, bon, ils avaient quoi, la trentaine. On va au bar, donc on se fait un peu une soirée comme je pourrais faire ici habituellement. Et ouais, ça m'a un peu surpris parce que je me suis retrouvé dans un moment à être bon, quand même un peu saoul dans une chambre d'hôtel légèrement vétuste. Enfin, je ne sais même pas si j'emploie le bon mot, mais...
C'est en capte.
Voilà, on était à 4 dans un petit 9 mètres carrés où je me retrouve totalement saoul avec des inconnus et je suis en train de me dire que je me mets dans une galère pas possible, quoi. Et je fais, mais Gabriel, qu'est-ce que tu fais? Enfin, je veux dire, t'es totalement saoul, tu sais pas comment tu vas rentrer, tu sais pas où t'es, tu sais pas te repérer. Et les gars, ils sortent avec moi, on prend un taxi, ils me déposent devant l'hôtel.
Oh là là.
C'était en mode, mais même le seul moment où je commence à douter un petit peu de la bienveillance humaine qu'il peut y avoir autour, eh ben, je me retrouve avec un corps, ben, on me ramène, quoi. Et c'était permanent, hein, vraiment. C'était presque caricatural d'avoir autant de chance tout le temps.
Bah, c'est... Moi, je trouve ça tant mieux. Ça me donne foi en l'humanité.
Oui, c'est clair.
Est-ce que tu as eu des problèmes de communication parfois avec les Péruviens, vu que finalement, ton niveau d'espagnol n'était pas incroyable, mais à t'entendre, tu étais toujours avec des natifs. Est-ce que tu as eu soit des quiproquos, soit des... Est-ce que ça a été difficile pour toi?
Vu comment tu rigoles, j'imagine que oui.
Ouais, j'y... Alors, c'est que je suis en train de repenser à un précis. Alors, j'ai dû en avoir pas mal, hein, mais bon, ils étaient tolérants parce que l'espagnol au Pérou et en Espagne, et c'est quand même pas vraiment le même. Enfin, on se doute bien avec la distance. Mais bon, après, ils voient bien que je galère, donc ils parlent l'espagnol un peu basique, comme on peut faire avec l'anglais. Mais bon, qu'est-ce qu'on fait quand on est français et qu'on ne sait pas des mots en espagnol? On dit le mot français, on rajoute un O et un A, quoi, un peu partout.
Technique universelle et oui, c'est ça, on valide.
Qui fonctionne parfois. Hein.
Oui, parfois.
Oui, ça peut marcher. Toujours. Ça peut marcher, mais ça ne marche pas avec le mot miracle. Ne dites pas...
Miraculo.
Ouais.
Moi, j'ai fait allemand LV2, je ne sais pas de quoi vous me parlez là, mais bon. Voilà.
Je me suis retrouvé à discuter religion, comme ça pouvait nous arriver souvent, avec la famille dans laquelle je vivais là-bas. Et je ne sais pas, bon, à un moment, on se retrouve à parler du petit Jésus. Voilà. Et je commence à vouloir dire qu'il fait des miracles. Et du coup, bah, je dis qu'en fait, Jésus regarde des culs. Quoi, et là, je les ai estomaqués.
Jésus assez miraculeux.
Voilà.
Et en fait, non, ok. Miracle, ce n'est pas miraculeux. Comment on dit miracle, alors?
Milagro.
Ok. Et c'est comme ça qu'on apprend. C'est comme ça qu'on retient.
Oui, c'est vrai.
En faisant des erreurs.
Ah, celui-là, je l'aurai jusqu'au bout de ma vie, je pense. Ouais.
On imagine bien.
Moi, je me demandais aussi si cette, les cours que tu avais, parce que bon, ok, tu voyageais pas mal, mais tu avais quand même un minimum de cours.
Oui.
C'était pas compliqué à suivre? Enfin, ils étaient peut-être en français, je sais pas.
Alors, non, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais il y avait quand même des côtés très intéressants. Parce que en psychologie, dans ma faculté, ils étaient très branchés sur, alors pour ceux qui connaissent un peu, sur la psychanalyse, et eux, ils étaient beaucoup plus branchés sur... qu'on appelle le DSM, c'est un manuel où on reporte les symptômes de différentes maladies mentales et dans lequel on les associe. Du coup, il y a diagnostic, symptômes, maladie, c'est beaucoup plus cartésien. Et en fait, moi, ça me plaisait plus. Et donc, au final, il y a quand même plein de choses que j'ai apprises, surtout que c'était très rigoureux, très travailleur. Et il y avait quand même des choses super intéressantes. Alors après, c'est vrai que ce n'était pas ma priorité. Mais et puis, ils m'ont impressionné. Enfin, là-bas, ils étaient incroyables niveau capacité de travail. Ils étaient bien meilleurs que nous. Enfin, ils y passent beaucoup plus de temps, il faut dire. Ils sont beaucoup moins à faire des loisirs. Hein. Mais ils ont une capacité. Ils avaient une capacité à faire des exposés qui étaient incroyables, quoi. Voilà. des fois, le prof pouvait en demander un travail à 22h pour le lendemain matin et les gars, ils te préparaient un exposé avec une petite maquette et chacun avait sa maquette personnelle pour voir le truc, quoi. Enfin, effectivement, il doit y avoir quelques miraculos dans le coin.
Est-ce que tu penses que cette faculté de travail qu'ils avaient, c'est peut-être parce qu'ils avaient moins le choix, vu que c'est un pays où il faut plus travailler peut-être pour s'en sortir, enfin, je suppose que c'est un pays quand même relativement pauvre ou modeste du moins, et donc il faut travailler si on veut avoir un bon poste.
Alors, oui, carrément, même si ma fac est un peu particulière, parce que c'était une fac privée là-bas, donc j'étais quand même avec les Péruviens les plus riches. Ceci dit, ils ont peut-être cette capacité aussi, parce que c'est une question plus culturelle et de mentalité, on leur laisse pas trop le choix. Il faut s'en sortir par le travail, en bossant à fond. Et donc, eux, c'est ce qu'ils faisaient. Après, c'est vrai que pour ceux qui étaient dans la fac publique là-bas, le concours est très, très, très dur pour y arriver. Il y a très peu de place. Effectivement, ceux qui arrivent, c'est qu'ils bossent. Et ils bossent énormément.
Quel échange tu avais avec les Péruviens sur la culture française? Est-ce qu'ils étaient un peu curieux de ton statut d'Urbain? Parce qu'en fait, vous étiez de très peu d'étrangers, finalement, dans cette école. Donc, je me demande s'il n'y avait pas un regard un peu différent sur vous. Est-ce qu'ils étaient curieux de toi, de ce que tu vis?
Bah, pas tant que ça, en fait. C'est vrai qu'en y repensant, non. Alors, moi, ils me parlaient beaucoup de Mbappé.
Ah oui.
Voilà, on me parlait beaucoup de football. Parce qu'on venait de gagner la Coupe du Monde aussi.
Ah oui, en 2018. Ah,
ouais. Voilà.
Ah oui, cocorico.
Et oui. Et mais sinon, non, pas tant que ça, c'est vrai. Pourtant, il y aurait eu des occasions de parler de culture française. Par exemple, plus ça a été le moment des Gilets jaunes. J'étais là-bas quand ça a commencé. Mais non, ça n'avait pas l'air de particulièrement les travailler. Bon, souvent, ils me demandaient des mots quand même, des petites traductions. Et voilà, d'ailleurs, là-dessus, j'avais des petits moments marrants aussi, parce que quand on faisait, ils faisaient la bénédicité, donc c'était à table, ils disaient merci au Seigneur pour le repas, etc. Et j'avais le droit de le faire en français. Je me suis un peu éclaté quelquefois.
Ah oui, on n'en doute pas, oui.
Enfin, heureusement qu'il ne me demandait pas trop la traduction ou qu'il avait le droit de faire juste son truc comme ça, quoi.
French is a beautiful language.
Oui.
Oh my god. Et moi, je me demandais quand même, toi, est-ce qu'il y a quelque chose culturellement qui t'a vraiment marqué en comparaison avec la France, avec la vie étudiante que tu avais à Angers, par exemple? Quelque chose de notable dans la vie d'un étudiant péruvien, par exemple, par rapport à la vie d'un étudiant français?
Je reviendrai, c'est sur le temps qu'ils passent à travailler et sur la rigueur qu'ils y mettent. Ouais. C'est vrai que c'est impressionnant tout ce qu'ils sont capables d'emmagasiner. Après, ce sont des humains comme nous aussi. Hein. Ils travaillent énormément. Du coup, peut-être que pour en mémoire, c'est compliqué. Mais là-dessus, c'était vraiment des tueurs.
C'est vraiment le travail. Vraiment sur le travail que ça c'est que t'as ressenti quelque chose.
Ah, ils étaient impressionnants. Ils faisaient des recherches. Ils faisaient des recherches pour chacun de leurs exposés. Ils allaient trouver tout ce qu'il fallait. C'est là-dessus.
D'accord. Ok.
C'est là-dessus, clairement. Okay. Ça m'a le plus marqué.
Je me demandais parce que je trouve que, mine de rien, en France, enfin, tu vois, on est habitué à avoir nos loisirs, nos conforts, on travaille ce qu'il faut. Au Pérou, je ne sais pas du tout comment c'est. Mais même, je veux dire, au niveau... rien que de me dire que quand tu voyageais, tu pouvais te déplacer sur une place publique et demander à quelqu'un qu'est-ce qu'on peut faire chez vous. Et c'est là que je me demande, mais qu'est-ce que ces gens te répondent, comment ils vivent? Parce qu'en France, d'ailleurs, je ne sais même pas ce qu'on nous dirait en France.
Ça, c'est vrai que c'est un peu marrant parce qu'en France, je me suis rarement mis en position de je suis voyageur. Et je me dis que ça pourrait être intéressant même de le faire dans notre ville de Nantes pour mieux connaître la ville, de faire semblant d'être étranger en fait et de voir comment on est accueilli par les gens. Je pense que ça serait vraiment une expérience à faire. Parce qu'au final, ça se demandait si c'est qu'ils étaient vraiment plus accueillants ou si c'est juste moi qui allais avec une énergie, une envie différente, quoi. Parce que j'y allais vraiment en me livrant pleinement, en ayant totalement confiance dans le fait qu'on va m'emmener vers des bons plans. Et c'est vrai qu'ici, je ne le fais pas du tout. Puis ici, j'ai ma maison, ma zone de confort, elle est là-bas. Une fois que je me retrouve dans une ville perdue à Chachapoyas, c'est une ville avant la jungle, j'ai plus le choix. Et tout le monde va me parler en espagnol, tout le monde... une fois que tu y es, tu y es et puis tu n'as plus qu'à vivre le moment, quoi.
Il va être l'heure de mettre la deuxième musique. Gabi, de la tradition, on veut qu'on mette deux musiques à chaque fois. Donc, est-ce que tu auras un autre son à nous proposer?
Eh oui, alors, Je vais vous expliquer rien plus tard, mais ça sera l'hymne breton.
Ça marche, c'est marrant d'écouter ça dans une émission qui parle du Pérou. Mais on écoute ça tout de suite.
Ni brésisa galanca, roman cuivo, brute de hanavo, drea petrodro, dispon creisa brise, ronta duque in mar, asquilla se viti, pourquoi,
baroudeur, place au voyage.
Et c'était l'hymne breton. Merci Gaby pour l'hymne breton. Pourquoi l'hymne breton au Pérou, ça n'a pas de sens.
Et bah, du coup, je l'écoutais très souvent parce que j'aime bien faire à manger, voilà. Et le truc plus simple que je pouvais leur faire de français avec les produits que j'avais là-bas, c'était de faire des crêpes. Ah. Et moi, mon petit secret pour faire de bonnes crêpes, c'est que la pâte à crêpes doit écouter l'hymne breton. Et là, elles sont impeccables. Hein.
Est-ce que les Péruviens ont dû finir par penser que c'était comme ça que tous les Français faisaient leurs crêpes en France, en écoutant l'hymne breton, l'ingrédient secret des Français ?
Avec la main sur le cœur, s'il vous plaît.
Aïe, aïe, aïe. Oh, j'espère que non, quand même.
Ce serait très drôle.
Ils vont nous prendre un peu pour des fous, sinon. Non, parce que la seule préjugé qu'ils avaient sur les Français, c'est ça va être un peu étrange, hein, mais c'est qu'on sent mauvais, semble-t-il.
Oui, inconnu. Ouais. Ouais.
Mais ça vient d'où ?
C'est connu,
pourquoi ?
Mais je comprends pas trop pourquoi.
Je crois que ça vient du fait que Paris, c'est assez sale, et vu qu'on est un pays qui on jette pas trop nos détritus, et du coup, ça s'est un peu allié à ce truc de finalement sur notre corps aussi, on fait pas très attention.
Ah, c'est marrant. En plus, je trouve pas qu'on ait les en Europe, on n'est quand même pas les plus dégueux, quoi.
Oui, c'est... Bah, c'est... Bref, changeons de sujet, on n'est pas là pour parler de la France. Retournons à ton voyage. Est-ce que tu veux nous parler un petit peu de... Du coup, t'es allé dans la forêt amazonienne, pardon. Oui. Tu veux nous en parler un petit peu ? Ça devait être impressionnant et t'as dû voir beaucoup de choses au niveau de la faune, de la flore.
Ouais, c'était le top de mon voyage. Ça a été le summum. Alors, il se trouve que en France, on a les vacances de la Toussaint. Au Pérou, ils les ont pas. Mais bon, je leur ai dit qu'en tant que Français, moi, je faisais les vacances de la Toussaint.
T'as imposé tes vacances à la fac dans laquelle t'étais.
Voilà, moi, je m'en suis pris une semaine. En même temps, il fallait bien ça pour aller vers la jungle parce que, comme je vous ai dit, déjà, j'avais 24 heures de car à un moment. Mmh. Au total, j'ai eu 2 jours de voyage. Donc, je me suis décidé d'y aller. Alors, je vais rajouter, il y a un moment un peu particulier aussi. C'est que, fin octobre, bref, il y a mon père qui était décédé il y a 3 ans. Et je m'étais dit que je voulais être plus proche de la nature juste pendant ces jours-là et réussir à passer un bon moment dans ces jours-là. Et ça a été le cas, ça a été assez exceptionnel. En fait, je suis allé dans une ville de plus loin possible que je pouvais dans la jungle. Sur la place, j'ai demandé ce que je pouvais faire. Et puis, y avait une guide à un moment qui faisait des excursions. Donc, je suis parti tout seul avec elle. On est parti pendant 2 jours dans la jungle, on a dormi dedans. Et alors moi, j'ai une passion qui va peut-être faire peur à certains qui nous écoutent, mais j'adorais voir les différentes araignées qu'il pouvait y avoir, les différentes tarentules. Mais il y en a qui sont très jolies. Hein. Il y en a vraiment de toutes les couleurs. Il y avait des fourmis énormes.
C'est vrai que l'image qu'on a de l'araignée, finalement, c'est un peu la grosse araignée noire velue qui fait super peur. Mais du coup...
Ah non, il y en avait des belles, des jolies, des colorées, hein. Des vraies boules à facettes. Et il y a aussi des jolis serpents, dont un d'ailleurs qui a mordu ma guide, mais heureusement à la botte. Alors il faut bien mettre ses bottes et retirer tout ce qu'il y a dedans avant.
Wow.
Parce que heureusement, je ne voulais pas me retrouver à 1 jour et demi de marche avec la guide sur le dos. Là, ça aurait été un peu compliqué.
Ouais. Au sens propre.
Et des crapauds de toutes les couleurs, mais surtout le calme. Parce que du coup, ça veut dire pas de téléphone. Ça veut dire être seul avec une personne et la plupart du temps, on marchait. On ne discutait pas tout le temps. Ça veut dire manger en faisant son petit feu soi-même aussi. Dormir avec des bruits de forêt où c'est vrai que là, c'est un peu le flip quand même. Hein, je ne veux pas vous le cacher, surtout quand on dit qu'il y a des jaguars dans le coin. Mm. Bon.
Mais du coup, tu dormais
en tente
ouais, comment ?
Non, il y a des abris en fait. Les excursions qu'ils font, le long des chemins, ils font des petits abris. Et, je dormais quand même en tente, mais surélevé. Sur du bois, voilà.
Oui, mais il n'y a rien autour, par contre. Je ne sais pas comment dire ça, mais...
Oui, autour, c'est du sol, il n'y a personne d'autre. Hein. On est que tous les deux.
Okay.
Et du coup, finalement, pas de jaguar pendant la nuit.
Pas de jaguar pendant la nuit. Des singes, dont ma guide avait très peur, d'ailleurs.
Des singes hurleurs
ouais.
Ou des gorilles ou...
Ah non, des petits, très agiles qui peuvent vouloir voler les humains et les mordre. Donc ça, elle n'aimait pas du tout. En gros, ils n'ont pas peur, alors que les autres ont tendance à partir. Parce que, l'araignée, même si elle nous fait très peur, elle nous voit, elle ne se dit pas qu'on a l'air appétissant. Quoi. Mmh. Elle sait qu'elle ne va pas nous manger. Donc elle préfère partir.
C'est gentil, les araignées, finalement.
Voilà.
Finalement, la forêt amazonienne, ça t'a pas mal ressourcé.
Ouais.
Comparé au désert, vu que toi la ville vers laquelle tu étudiais, du coup, c'était plutôt du désert, c'est ça ?
C'était désert partout. Et d'ailleurs, il y a un point culminant quand même, vraiment magique de cette excursion. C'est, on marche, du coup. Ensuite, je passe ma première nuit là-bas. On continue de marcher, puis on monte, on commence à aller très haut. Et à un moment, on se retrouve presque tout en haut de la montagne. Je me retrouve sur un petit rocher où je peux m'avancer. Alors, c'est la caricature, mais le rocher se rapetissait petit à petit. Du coup, en s'asseyant là, j'ai les jambes dans le vide. J'ai vraiment centaines de mètres dessous moi. Enfin, je veux dire, faut pas tomber. Ouais. Et en face, sur la montagne d'en face, il y avait du vent. Et il y a les nuages qui arrivaient vers moi et qui étaient en train de descendre la montagne. Et je retrouve tout seul, tout ce que tu peux voir autour de toi, c'est la forêt, c'est la nature. Et t'as ça qui t'arrive. Hein, c'était vraiment waouh, quoi.
Wow. Moi, j'ai voyagé avec toi là. C'est vrai. Hein.
C'était magique.
Hein. Bah, c'est sûr que tu dois avoir des choses assez incroyables. Je vais détourner le sujet totalement tout à l'heure, parce que le temps tourne et c'est un sujet qui avait l'air pas mal intéressant. Tu nous en parlais pendant la pause musicale, tu parlais de corruption. Est-ce que tu pourrais nous en parler un peu plus? Parce que ça avait l'air d'être quand même quelque chose, là-bas.
Oui, corruption, c'est le premier mot que les Péruviens utilisent si on leur parle de politique. Et la ville dans laquelle j'étais, y a un maire qui était le maire qui est tombé parce qu'il avait des liens avec la mafia. Donc, ambiance assez sombre, surtout que juste après, il fallait réélire un maire, parce qu'il y avait, il y avait une nouvelle élection.
La mafia, elle est très présente au Pérou.
De ce que j'entends, oui. Alors, le Pérou, c'est le deuxième pays producteur de cocaïne aussi. Mmh. Et beaucoup d'argent pour ça. Et le travail des enfants, d'ailleurs, enfin, c'est assez triste, mais il y en a beaucoup qui tombent dedans, quoi. Mais donc, oui, pour y revenir sur cette élection, il y a un nouveau maire qui a été élu et il est retombé pour la même chose. Mmh. Exactement, lien avec la mafia.
Et ça, juste sous les 4 mois où... 4 mois, c'est ça où oui. Tu étais là ouais, oui. Juste en l'espace de temps de 4 mois.
Ouais, 2 qu'on sautait.
Et c'est très régulier, les Péruviens, ils en disaient quoi de tout ça?
Ah ils le prennent avec beaucoup de cynisme. Hein. Ils sont assez habitués. Oui, ça semblait être... c'est presque normal. Et puis, d'ailleurs, dans une autre ville où je suis allé le jour de l'élection... Alors, il faut savoir que la veille de l'élection, il n'y a pas droit de, il n'y a pas droit de boire, parce que le vote est obligatoire au Pérou. Ils appellent ça la ley seca, la loi sèche, on ne boit pas. Bon, c'est la meilleure fête que j'ai faite, c'était ce jour-là, hein, au Pérou, mais bon, bref. Et le lendemain, le maire, fraîchement élu, offre les bières à toute la ville.
Ah oui.
Ah, c'est
oui.
Génial, comme argument électoral,
c'était dans son programme, ça.
Au niveau de délégué de fac, je vous paye un verre.
Ouais, c'est vraiment ça.
Ah, c'était assez exceptionnel, ouais.
En plus, c'était une grande ville, 600 000 habitants, c'est ça environ?
Alors, ouais, j'étais pas dans cette ville à ce moment-là, j'étais plutôt dans une ville de 5-6 000 habitants.
Ok.
Et c'était une des villes où il y avait qui était censé être un des chemins pour trouver... L'or caché des Incas.
Super. Moi, j'aimerais bien qu'on revienne sur un petit point, vu que ça va bientôt être la fin de l'émission. Mais tu en avais parlé au tout début. C'était en partie avec le fait que le Pérou, c'est marrant à prononcer, ce qui t'avait motivé à aller, à aller au Pérou. Tu t'avais dit que ça t'intriguait un petit peu, tout ce qui était chaman, tradition péruvienne ou autre. Est-ce que finalement, tu as pu avoir un avant-goût ou un goût complet de ça, de ces traditions, que ce soit au niveau de la danse, de la musique ou des chamans et de tout leur côté spirituel?
Alors, un petit peu, c'est clair. Oui, ça m'intéresse énormément parce que ils font beaucoup de liens au spirituel. J'avais déjà entendu beaucoup de gens parler de voyages qu'ils avaient fait avec des chamans. Alors, il y en a qui se font avec des ingestions d'ayahuasca, qui est une potion qui prépare avec... une mixture qui est préparée avec différentes feuilles, différents breuvages qui existent depuis très longtemps, où ils font des voyages hors du corps et on est censé mieux se connaître. Par contre, c'est quelque chose qui est pris très sérieusement, c'est-à-dire qu'il faut être bien avec soi-même. Il y avait des règles très strictes pour certains chamans. Il y en a d'autres où ils ne mettaient pas du tout de règles, mais ça ne m'inspirait pas confiance. Il y en a d'autres où il y avait des règles très strictes et du coup, je n'ai pas osé franchir le pas, même s'il y avait des choses qui avaient l'air très intéressantes là-dedans. J'ai pas osé. J'ai eu peur de me perdre. J'avais aussi entendu beaucoup de mauvaises histoires là-dessus. Et c'est vraiment quelque chose qui est fort et où je ne voulais pas juste me ramener et faire mon européen consommateur qui se dit « Oh cool, de l'ayahuasca », comme j'ai pu voir en certains acheter une bouteille où il y a écrit « ayahuasca » dessus et buvait ça comme ça. Enfin, voilà.
Oui, effectivement, alors que l'ayahuasca, j'avais vu un documentaire là-dessus, c'est quand même quelque chose qui est hyper ritualisé. Et effectivement, les Européens aiment beaucoup tester l'ayahuasca, mais il faut vraiment être encadré par quelqu'un qui, en fait, connaît le produit, etc. Parce qu'il y a pas mal de personnes qui utilisent ça et qui en font des dérives, en fait, et il y a pas mal de problèmes autour de ça. Enfin, c'est quand même un truc à prendre au sérieux.
Oui, ouais. C'est pas un usage récréatif comme ce qu'on peut plus voir par chez nous. Et non, c'est une tradition qui est ancrée depuis longtemps. Au contraire, hein, niveau drogue, je vous ai dit, j'étais dans un univers catholique, c'est très strict. Mais ça, c'est quelque chose qui est totalement différent, quoi. Il y a vraiment tout un aspect connexion à la nature, à son soi-même qui est très fort et qui est respecté.
Le respect, belle valeur. Je pense que c'est sur ça qu'on peut finir l'émission. On va du coup se quitter. Merci beaucoup, Gaby, pour ton témoignage. J'espère que ça t'a plu.
Ouais, bah merci à vous. Ça m'a replongé dedans. C'est agréable aussi.
Avec grand plaisir.
Ouais. Et nous, on a kiffé. Maintenant, on va se quitter avec une petite dernière musique que tu avais choisie.
Est-ce que tu pourrais nous en dire deux mots?
Oui. La musique, c'est « Mon Européenne » de Damien Saez. Alors, je pense que si quelqu'un est à 10 000 km et écoute une chanson qui s'appelle « Mon Européenne », vous pouvez vous en douter pourquoi.
Merci et à bientôt. C'était La Baroudeur sur 92 FM.
Elle est gauloise au petit vin blanc, elle est contre-gouvernement, elle est profite des religions, elle est pop putain du pognon, elle est vent du nord ou d'ouest, elle est vent du sud ou de l'est, elle est sans abri à la rue, elle est toujours peine perdue. Gitane, elle est profane, elle est con, la gauloise plane. Elle est toujours fumeuse de joint, elle dort dans les gares en chemin. Elle est solidaire au combat, elle est Varsovie, Messina. Elle est pas banquière pour un sou, elle est pas botte au garde à vous. Elle est sans abri, sans frontières, elle est contre totalitaire. Elle est je t'emmerde avec ta thune, elle est vas-y resserre une brune. Elle est ma gueule de Picasso, elle est tous mes potes au pinceau, Kusturica, Sarajevo, elle est pas loin la Gestapo. Mon Européenne, c'est pas la Bruxelles, mon Européenne, c'est pas Genève, c'est pas la thune, tu marches ou crèves, tu sais moi, mon Européenne, elle a pas vraiment de frontières, son corps c'est la planète entière, n'en déplaise au peuple bourgeois, tu sais mon Européenne à moi, elle est coupon ras sur l'épaule, elle est tatouage de la tôle, elle est accordéon sanglot, allez, accorde-moi un tango. Elle est destin des origines, elle est racine gréco-latine. Elle est contre l'union bancaire, elle est mes révolutionnaires. Elle est potamimi pinson, elle est Roumanie sans pognon. Elle est guillotine pour les rois, elle est plutôt comme toi et moi. Elle est pas médiatique, je crois, elle est pas politique bourgeois. Elle est paysanne au combat, elle est partisane quand elle boit. Elle est ouvrière licenciée, non c'est pas la fille du progrès. Elle est pantonéon métro, elle est plutôt Manu Crado. Elle est nordique nord-africaine, elle est un peu baltique aussi. Elle a des airs de statue grecque, elle a des airs des italiques. On dirait Paris à Venise, qu'on dirait Namur aux Marquises. C'est Gauguin qui peint la terre comme un pinceau, vous dit mon frère. Mon Européenne, c'est pas Bruxelles, mon Européenne, c'est pas Genève. C'est pas la thune, tu marches ou crèves, tu sais moi mon Européenne. Elle est pas Merkel ou Hollande.